En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'Europe est cette année l'un des principaux thèmes de travail de l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie placée sous la présidence de M. Michel Albert cette année. Tous les lundis à 15h en salle des séances, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication consacrée à ce thème, donc l'Europe. Et le lundi 26 avril 2004, l'Académie avait invité le président de la Commission européenne, M. Romano Prodi. Séance exceptionnelle, on s'en doute, en la présence d'un public nombreux. Actualité oblige, en marge de l'élargissement officiel de l'Europe, Romano Prodi présentait une communication logiquement consacrée aux priorités de l'Union européenne élargie. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances.
Membres de l'Académie, autorités, chers amis, permettez-moi avant tout de vous remercier, en particulier mon ami Michel Albert, pour cette invitation à m'exprimer devant votre Académie, qui est un des grands lieux d'excellence et de débats européens. Et j'espère tenir un discours très bref et avoir après la conversation libre et dans laquelle nous pouvons discuter les différents sujets. L'initiative que vous avez prise à travers les points de vue sur l'Europe confirme toute votre sensibilité pour les questions européennes et donne une contribution importante au débat sur l'Europe en cette année décisive pour le futur de celle-ci, où nous devons prendre des décisions fondamentales sur l'Europe que nous souhaitions, sur son identité, sur les nouvelles grandes priorités communes. Il y a en effet dans l'histoire des moments où nous sommes appelés à opérer des choix forts, déterminés et qui marqueront les années à venir. L'Europe de l'euro, de l'élargissement et bientôt, je l'espère, de la Constitution constitue un des moments forts. Le 21e siècle, celui de la mondialisation, et un des grands défis transnationaux, requiert un saut qualitatif dans la conception du projet politique européen. Il s'agit avant tout d'un problème des dimensions évident mais important. C'est-à-dire que les États européens sont, tous sans exception, trop petits pour pouvoir relever ces défis en dehors ou indépendamment du contexte européen. Notre Europe, qui prend une dimension continentale, doit d'abord identifier les valeurs qui doivent fonder son nouveau pacte politique. La paix, la démocratie, la dignité humaine, la justice sociale. Ce n'est qu'à la lumière de telles valeurs, en effet, que l'on peut identifier les grandes priorités de l'Union élargie. S'il y a une grande réalisation européenne que nul ne peut contester, c'est d'avoir rendu la guerre entre les États et les peuples européens purement inconcevable. C'est d'abord ce modèle de paix auquel l'élargissement se réfère en entendant à tous les continents européens cette évidence qu'une guerre entre nos peuples est impossible. Aujourd'hui, l'Europe doit assumer un rôle international plus fort et plus cohérent pour contribuer à la paix et à la stabilité du monde. Et en Irak, pour donner un exemple, le moment est venu pour l'Europe de prendre en tant qu'Union une initiative politique forte dans le cadre des Nations Unies afin de peser sur les Kurdes d'une situation qui devient dramatique chaque jour. L'Europe doit contribuer à une solution claire et durable, fondée sur les principes incontournables de la souveraineté du peuple irakien et du respect des droits de l'homme et des minorités, ainsi que sur l'intérêt général de la communauté internationale, qui est de rétablir la paix et la stabilité politique du Moyen-Orient. Aucune solution ne sera possible si certains des protagonistes restent exclus du processus de pacification, de réconciliation et de démocratisation. Surtout, il faut une perspective et un espoir de paix. Sans cette perspective, les forces qui refusent le dialogue trouveront toujours un terreau fertile. Sans cet espoir, les autres mourront. En Irak, par ailleurs, il est inutile de regarder en arrière, de rassasier ce qu'il aurait fallu ne pas faire. Nous ne pouvons en aucun cas abandonner ce pays à son destin. Or, chaque jour, on voit un peu plus combien il serait difficile de donner aux Irakiens des véritables perspectives de paix et de réconciliation sans une initiative multilatérale forte. L'Europe de la paix est aussi l'Europe de la démocratie. Et je me pose toujours la question, comment peut-on encore aujourd'hui présenter l'Europe comme une machine technocratique alors que la démocratie a toujours été la condition de base de l'adhésion au projet européen, alors que l'Europe a été le facteur essentiel des 6 décennies de démocratie que nous venons de connaître, alors que cette Europe a agi comme une main sur les pays dont l'adhésion est à présent imminent, avant même l'effondrement du mur de Berlin, et qu'elle a fourni l'amorce de la transition démocratie à l'Est. Nous avons vraiment exporté la démocratie. Ça, c'est la réalité. Une démocratie qui repose sur un sens affirmé de solidarité. La différence et l'exclusion que d'autres sociétés tolèrent, en effet, ne sont pas acceptables en Europe. C'est pourquoi l'Europe doit rester vigilante pour éviter qu'en son sein ne se créent des poches de pauvreté et de marginalisation, pour garantir à tous ses citoyens un niveau d'instruction adéquat, qu'il est la clé de l'émancipation personnelle, mais aussi de la croissance économique et sociale des peuples. L'idée que les valeurs mêmes sur lesquelles nous avons développé notre projet d'intégration continentale renvoient au principe de la dignité humaine et par dignité on entend le droit de vivre et de travailler et la réduction de la misère et de l'ignorance. La volonté que manifeste cet État membre de favoriser l'inclusion sociale et les progrès qu'il réalise dans cette voie, pour ne citer que ce seul exemple, témoigne de ce qu'il peut être fait et de ce qui reste à faire en la matière. L'Europe doit rester vigilante pour faire en sorte que, en cet instant où nous réformons nos systèmes de protection sociale, les réformes s'attachent aux instruments sans saper les principes qui les fondent. Une démocratie, donc, étroitement liée à une certaine idée de la justice sociale que l'Europe doit aujourd'hui proposer une nouvelle fois à ses membres ainsi que dans ses rapports avec le Nord et le Sud du monde. C'est sur ces valeurs-là que nous devons fonder nos choix concernant les nouvelles priorités de la Grande Europe. Des choix qui ne supposeront pas nécessairement tous une intervention active de la part de Bruxelles. Des choix qu'il faudra replacer dans un système de gouvernance à plusieurs niveaux et bâti sur une subsidiarité qu'il convient surtout de concevoir comme un nouveau rapport entre la puissance publique et les forces les plus agissantes des sociétés européennes. La participation à la vie politique et les diverses formes de partenariat associant la société civile sont indispensables à l'efficacité de l'action publique et à la compréhension des besoins de la population, ainsi qu'à la conception des solutions les plus aptes à répondre à ces besoins. Ces choix doivent être caractérisés par une approche européenne forte, de plus en plus nécessaire et de plus en plus souhaitée par les citoyens européens. Mais la stabilité internationale et la sécurité, nos relations avec les régions les plus proches, l'immigration, la croissance économique et le développement durable, la recherche, l'université, la participation citoyenne constituent les grandes priorités de l'Europe pour les années à venir. Le rôle de l'Europe dans le monde doit refléter notre histoire commune et une nouvelle philosophie des relations internationales. Notre choix du multilatéralisme efficace est à la base de la réussite de l'intégration européenne. Nous devons le proposer à nouveau avec force comme instrument du nouvel ordre mondial multipolaire. Notre confiance renouvelée aux Nations Unies en tant que pivot du nouveau système multilatéral n'a donc rien qui doive surprendre. Pour nous, multilatéralisme signifie prendre au sérieux les règles de la politique internationale, aider tous les pays à appliquer et à respecter ces règles, jouer un rôle actif au sein des organisations multilatérales, anciennes et nouvelles, et promouvoir un agenda pour la paix, la stabilité qui transcende la simple défense des intérêts nationaux. Cette démarche est indispensable pour gagner les défis de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme international, qui ne peut reposer uniquement sur des mesures de sécurité, certes nécessaires, mais nécessite également une stratégie à long terme contre les causes profondes du phénomène. Pour pouvoir assumer de nouvelles responsabilités mondialisées, l'Europe a besoin d'une plus grande présence et d'une action plus cohérente au sein des principales organisations internationales, comme elle doit dessiner progressivement une véritable défense commune européenne. En Europe, cela suppose en particulier de renforcer les piliers européens de l'OTAN, une alliance qui réunit tel un pont les deux rives de l'Atlantique. Dans le monde, cela suppose d'avancer dans la voie d'une représentation européenne unique et, pour commencer, au sein des organisations financières internationales. L'élargissement nous offre notre grande opportunité politique, la construction de nouvelles et vastes zones de stabilité et de prospérité, englobant toutes les régions qui entourent l'Union élargie de la Russie à la Méditerranée. La politique de voisinage de l'Union européenne, qui est le complément de la stratégie d'élargissement, repose sur une nouvelle conception des frontières, envisagée non plus comme une ligne de séparation, mais comme un espace de dialogue, de coopération et d'échange. En particulier, la Méditerranée, en tant que grand espace multiethnique, traversé par des formes et des organisations sociales diverses, doit devenir une charnière de paix et de coopération au centre d'une vaste région politique et économique allant de l'Espagne à la mer Noire et au golfe Persique. Nous devrons ensuite élaborer une nouvelle politique de gestion de l'immigration légale dans le cadre d'une coopération structurée entre le Nord et le Sud, qui concilie les flux migratoires, situation du marché du travail européen et aspects interculturels. En parallèle, les événements tragiques qui se produisent sur la chaîne internationale nous poussent à coopérer davantage dans la lutte contre les trafics illicites et les réseaux criminels transnationaux. En outre, la dénatalité et le vieillissement démographique transformeront rapidement aussi les nouveaux pays membres de l'Union en zone de migration nette et justifieront encore plus une politique européenne commune de l'immigration. Nous voilà bien loin à présenter de cette crainte d'un flux massif de travailleurs des pays de l'Est vers l'Europe des 15, qui ne se produira pas parce que l'intégration européenne offre à ces pays une perspective claire de développement économique et social. Et quand ces perspectives existent, elles réduisent nécessairement l'incitation à migrer, comme l'ont montré les exemples de l'Italie dans les années 60 ou de l'Espagne et du Portugal dans les années 80. Chers amis, la défense des valeurs de la démocratie européenne suppose également de défendre un modèle fondé sur l'économie sociale de marché et de relancer la réflexion sur notre rapport au marché. Le temps de la pensée unique est fini, comme a pris fin la prétendue supériorité absolue du marché sur la politique. Le marché ne produit de la prospérité et ne favorise le bien-être social qu'à la condition qu'existe des règles claires auxquelles tu adhères et que tu respectes. Les défis de la croissance et de la compétitivité peuvent être relevés et gagnés sans faire fi ni du dialogue et des interactions entre les composants de la société, ni du respect mutuel, ni de la nécessité de donner de véritables perspectives de développement équilibré et durable. Aujourd'hui, l'Europe se trouve dans une situation économique languissante et on a l'impression qu'une sorte de résignation du corps social européen, un chômage de masse, s'est abattu sur le continent européen. Nous devons nous inscrire en faux contre cette tendance. D'autres économies ont réussi à sortir de l'impasse et nous pouvons aussi les faire. La zone euro a un fort besoin d'une nouvelle gouvernance économique et sociale, d'une alliance pour la réforme coordonnée au niveau européen. Et les problèmes actuels de l'Europe résident dans son incapacité à adapter ses politiques, ses modèles d'organisation et les instruments de ses systèmes économiques et productifs au monde et à des marchés qui ont été profondément transformés par la mondialisation, l'innovation technologique et une concurrence toujours plus ouverte. Dans le contexte d'élargissement, il faudra trouver un nouvel équilibre entre les exigences de la compétitivité économique et la nécessité d'assurer un degré suffisant de cohésion sociale. Pour gagner, nous devons parier sur la qualité, sur le développement technologique, sur l'innovation, et de manière plus générale, nous devons valoriser les capitaux humains par un effort de confiance et de collaboration réciproque entre les autorités publiques, les partenaires sociaux et la société civile. Il faudra renforcer la capacité de recherche européenne, accroissant l'effort financier global pour la recherche à concurrence de 3%, au moins 3% du produit interne brut européen et en soutenant l'excellence de la recherche dans un véritable marché intérieur européen de la recherche et de la technologie. L'Europe doit être tout d'abord une union de cerveaux et même plusieurs unions en conjurant les risques de fuite des cerveaux par une réelle mobilité dans l'espace européen favorable au transfert des connaissances et aux échanges culturels, permettant également de renforcer l'intégration, la cohésion interne et le développement d'une communauté scientifique et technologique unique sur le continent. Voulons-nous nous unir et unir nos efforts ou souhaitons-nous au contraire être les artisans de notre propre déclin en restant divisés? Pour réaliser tous ces objectifs, une nouvelle organisation du système universitaire européen est également nécessaire en vue de les rendre plus compétitifs en renforçant son pouvoir d'attraction au niveau mondial et en favorisant encore davantage la mobilité des chercheurs et des étudiants. Je tiens à vous dire, à vous justement, en cette Académie des sciences morales et politiques, qu'il est indispensable que le système universitaire européen ne parte jamais de vue la formation de l'individu qui doit être sa principale mission. La formation humaniste et scientifique ne doit pas être coupée du progrès technologique et de la spécialisation académique. En outre, la réduction des inégalités et la promotion d'une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale doivent garantir une répartition plus juste des bénéfices de la croissance. La politique de solidarité jouera un rôle encore plus important dans l'Europe élargie. Nous devons donc maintenir ces soins de fond et mettre encore plus directement que par le passé la politique de cohésion au service de l'emploi et de la compétitivité. Cette solidarité, cependant, ne se réduit pas à une question d'économie et de flux financiers. Elle est fondée sur un lien politique forte. L'Europe est un projet politique global, n'est pas une simple assurance économique. Enfin, un niveau adéquat de services d'intérêt général dans les secteurs comme la santé, l'éducation, l'énergie, les transports, les télécommunications ou les services postaux fait partie intégrante d'un modèle européen visant à renforcer toujours davantage la dimension européenne de la citoyenneté et de la participation civique. La citoyenneté doit être concrète et tangible. Les citoyens doivent pouvoir la vivre au quotidien. Ce n'est qu'ainsi que la citoyenneté prend substance. L'euro, par exemple, contribue plus que nombre de déclarations politiques au développement d'une identité commune européenne. La citoyenneté au quotidien implique également un renforcement des mesures visant à promouvoir la mobilité des jeunes en Europe, non seulement en matière d'éducation, mais aussi dans le secteur du volontariat et du service civil. En effet, seules des expériences communes permettent de développer ce sens d'appartenance à une communauté qui dépasse les frontières historiques des États-nations. Chers amis, voici quelques-unes des grandes priorités sur lesquelles nous devrons concentrer nos efforts au cours des années à venir. Pour parvenir à cet objectif commun, il nous faut un important aménagement constitutionnel et des ressources suffisantes. L'adoption du projet de constitution d'ici juin, au cours de la présidence irlandaise, est encore envisageable et nous devons tout faire pour y arriver. La nouvelle constitution représente sans aucun doute un grand pas en avant vers davantage d'efficacité, de simplicité et de clarté. Pour unir les peuples européens, nous avons besoin d'un aménagement institutionnel favorisant l'intégration, la coopération et l'harmonie entre les États. Tel était le message des pères fondateurs que j'ai voulu rappeler pendant les travaux de la Convention, bien résumé dans la phrase de Jean Monnet qu'il disait « Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait changer la nature des hommes, mais en modifiant le contexte dans lequel ils agissent, en leur donnant les mêmes règles, les mêmes institutions démocratiques, on peut les amener à comporter différemment les uns vis-à-vis des autres. Dans la communauté, les Européens apprennent ainsi à vivre ensemble comme un même peuple. Et nous ne coalisons pas les États, nous unissons les hommes. Le succès obtenu en plus d'un demi-siècle d'intégration, grâce à la méthode communautaire, grâce à la coopération entre le Conseil, le Parlement et la Commission, sous le contrôle juridictionnel de la Cour de justice, constitue nos points de référence et notre source d'inspiration pour l'avenir et face aux nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. C'est une méthode équilibrée et efficace qui garantit les prérogatives des gouvernements, permet l'exercice d'un contrôle démocratique et assure la cohérence de l'exécutif. Une méthode difficile, mais qui permet à l'Europe d'exister et d'agir. Toutefois, Pour exister et agir, une méthode ne suffit pas. Il faut également disposer des ressources et des instruments adéquats à la hauteur de notre ambition. Nous avons proposé, non sans difficulté, pour la période de financement 2007-2013, de conserver l'actuel plafond de ressources propres qui s'élève à 1,24% du produit national brut européen. Nous sommes convaincus que ce montant constitue le minimum nécessaire, absolument le minimum nécessaire pour obtenir des résultats concrets. L'absence de ressources adéquates ne permettrait pas de mieux contrôler les budgets, mais aurait pour conséquence une diminution de la prospérité et du bien-être de tous les Européens. Les dépenses de l'Union sont au service des gouvernements et des peuples européens et représentent souvent le seul moyen de faire face aux problèmes supranationaux avec efficacité. Tels sont, chers amis, le sens et la portée du défi auquel nous sommes confrontés. Le moment de choisir est de nouveau venu pour notre Union. Nos choix doivent être courageux et tournés vers l'avenir. Ils doivent être fondés sur un sens de responsabilité élevée et ne peuvent ni être influencés par des intérêts minoritaires et particuliers, ni être soumis à des exigences tactiques à court terme. Ces choix doivent être à la hauteur de notre ambition et des attentes que l'Union fait naître en Europe et dans le monde entier. Je vous remercie.
C'était le président de la Commission européenne, Romano Prodi, devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 26 avril 2004. Romano Prodi présentait une communication sur les priorités de l'Europe élargie. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du texte de cette intervention sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse, notez bien, www.asmp.fr. Le site vous propose également de découvrir l'ensemble des travaux de l'Académie et des académiciens.
Vous écoutez Canal Académie.